vous présenter un peu le docteur. Docteur Monard est hongrois et en 1948, il a quitté l'Hongrie et puis il est allé aux États-Unis. Donc ça fait 45 ans qu'il demeure aux États-Unis. Et quand le rideau de fer est tombé dans l'est de l'Europe, il est retourné en Hongrie pour enseigner à l'Université de Budapest. Donc il est actuellement professeur à l'Université d'État de Budapest et aussi il est professeur dans une académie spécialisée qui vient d'être érigée en Hongrie. Étant pas américain, mais avoir passé plusieurs années aux États-Unis, le professeur est américanologiste. Il a écrit un livre qui s'appelle L'Américanologie. Et il porte un jugement assez critique vis-à-vis de la démocratie américaine et aussi du, si on peut dire, l'impérialisme idéologique américain qui s'étend de plus en plus dans le monde entier. Surtout à partir du Harvard Business School, on voit, disons, cet esprit mondial qui s'étend de plus en plus dans toutes les nations, surtout dans le tiers monde. Étant hongrois et contre-révolutionnaire, le professeur a écrit le livre qui, en 1967, La contre-révolution. J'espère qu'il peut nous apporter quelques éléments ce soir pour voir justement le développement des nations et vis-à-vis du mondialisme ce soir. Le professeur écrit, il est chroniqueur très actif, il écrit dans Monde et Vie. Il est chroniqueur chaque semaine, si je me trompe. Monsieur le professeur, est-ce que vous écrivez ou chaque numéro, c'est ça? Oui, chaque numéro, il y a, un commentaire sur le monde actuel. Il écrit aussi dans plusieurs journaux aux États-Unis, en France, en Hongrie. Donc, après la conférence, certainement, vous aurez bien des questions. Le professeur peut répondre parce qu'il a écrit sur bien des sujets. Il est professeur de philosophie de la religion. Hier soir, on aurait dû avoir une conférence, Hans Kung et le Dieu immanent. Donc, vous pourrez peut-être lui demander des questions sur la philosophie de la religion et aussi sur la politique. Voilà, ces deux spécialités. Donc, je laisse la parole à monsieur le professeur. Et après la conférence, je vous invite à passer aux tables de presse. Merci bien.
Merci. Merci bien. Merci bien, cher monsieur l'abbé. Mesdames et messieurs, je ne vais pas reprendre ni en tant que critique, ni en tant qu'approbateur les articles de journaux habituels qui diagnostiquent notre monde actuel d'une certaine façon, je dirais, orthodoxe. Il n'y a jamais de déviation de la ligne principale. Alors, je ne vais pas imiter les journaux et les médias d'aujourd'hui. Je voudrais justement développer devant vous une autre perspective. Et je ne réclame pas la vérité absolue pour cette perspective, c'est tout simplement pour lancer une autre pensée, une autre ligne de pensée, et puis nous pouvons nous mettre d'accord, ou pas du tout, sur la validité ou la non-validité de cette ligne de pensée, de cette ligne d'observation. Alors, le point initial, c'est que nous vivons non pas dans des États tels que, disons, le patriotisme, le nationalisme européen a créé l'État, disons, à la Renaissance, un peu avant, un peu après, et qui a vécu jusqu'au XXe siècle. Ce ne sont plus des États, ce sont, je dirais, des sociétés civiles, et il faut distinguer entre État, Église et société civile, les trois composantes de nos communautés, disons nationales, parce qu'il n'y a pas d'autre terme. Donc nos communautés nationales, quand je dis nos, c'est surtout l'Occident, bien entendu, qui sont donc divisées en État, en Église et en société civile, chaque unité ayant ses tâches, ses fonctions, ses raisons d'être. Or, je vous soumets cette proposition que l'État a été non pas éliminé, parce que cette agence appelée État est nécessaire, mais enfin, il a beaucoup perdu de son rôle classique. Classique, encore une fois, entre la Renaissance et le XXe siècle, et a cédé ce rôle à la société civile. La société civile, je ne voudrais pas la définir trop étroitement, je dirais que ce sont les transactions humaines, surtout les transactions d'affaires, d'ailleurs, transactions économiques, et que notre monde, depuis la Constitution américaine et depuis la Révolution française, et vous voyez que ces deux dates sont en concordance, notre monde fonctionne sous le signe de la société civile, dont l'État est une espèce d'agence d'exécution et dont l'Église est une espèce de lobby, parce que l'Église, surtout avec Vatican II, d'abord avec la séparation de l'État et de l'Église, et puis surtout depuis Vatican II, l'Église est devenue un groupe de pression, pas très fort d'ailleurs. Je ne parle pas du Québec, évidemment, je ne parle pas de tel ou tel pays, je parle en général de l'évolution occidentale. Donc l'Église est devenue une espèce de lobby, privatisée de plus en plus, non autorisée à faire ce que l'Église a fait pendant 2000 ans. Et puis il y a l'hégémonie, et j'insiste sur le mot hégémonie, de la société civile. Donc ce n'est pas vrai ce que dit la science politique à la mode, que nous avons des États et même que ces États prennent de plus en plus de pouvoir. Non, ce n'est pas l'État qui prend le pouvoir, c'est la société civile qui se développe de plus en plus. Je dirais même, et c'est encore une fois un sujet de contestation, que les systèmes totalitaires, et j'appelle les systèmes totalitaires surtout le communisme, les systèmes totalitaires, c'était en réaction, c'est une théorie comme une autre, mais je vous prie tout simplement d'en tenir compte, une espèce de réaction contre cette disparition de l'État et de la disparition de l'Église. Le communisme étant intrinsèquement pervers, ce n'était pas une substitution de l'État, une substitution de l'Église, mais ce qu'a fait le communisme, c'est d'avoir écraser la société civile. Le communisme commence toujours avec l'écrasement du business et des rapports interhumains et intergroupes, donc écraser la société civile, a confisqué l'État, inutile de vous dire que le communisme a confisqué l'État, et je dirais même confisqué l'Église, parce que le communisme a un besoin, comme toutes les sociétés, d'une religion. Dans le cas des communistes, c'était une idéologie. Donc, si vous analysez le système communiste, notamment celui de la Russie, vous trouverez que ce qu'ont fait Marx, Lénine, Staline et les autres, c'est d'avoir confisqué donc l'État et l'Église et ont créé un parti qui était à la fois État et Église, parce que c'était le dernier mot dans l'idéologie, c'est-à-dire dans la religion. Alors, c'est une nouvelle vue, peut-être, ou peut-être pas, sur le système, le phénomène totalitaire de notre époque, qui n'est pas ce qu'on appelle, voilà, c'est une exception dans l'histoire, ça ne peut pas arriver, ça ne s'est pas arrivé, donc on se contente d'invectives, mais il faut quand même analyser ce qui est arrivé, et je crois que c'est au moins un point de départ d'une analyse que je viens de vous proposer. Alors nous sommes, nous en Occident, surtout avec la défaite du communisme, nous sommes maintenant dans une immense société civile. Chacune des nations, chacun des pays, qui ont évidemment encore aujourd'hui leur décor. Le décor est toujours le même, le décor du XIXe siècle. Nous avons les uniformes, nous avons les armées, nous avons les impôts et ainsi de suite, et la division des pouvoirs selon Montesquieu, mais nous avons finalement une hégémonie pour la première fois dans l'histoire, non seulement de l'Occident, mais de toute l'histoire, l'hégémonie de la société civile. Encore une fois, j'insiste que ça ne s'est jamais produit auparavant, c'était toujours l'hégémonie de l'État et ou de l'Église. ensemble l'État et l'Église, ou bien soit l'État, soit l'Église, mais on n'a jamais vu dans l'histoire l'hégémonie de la société civile. L'État et l'Église n'ont jamais eu confiance dans la société civile en se disant, mais voilà, c'est quelque chose de très mobile, on ne peut pas lui faire confiance, ça augmente aujourd'hui, ça diminue demain, donc il faut maintenir la société civile sous nos houlettes. Or, c'est la première fois au XXe siècle que la société civile a acquis la hégémonie. Évidemment, cela a des conséquences. Une des conséquences, comme toutes les institutions, comme l'État et comme l'Église, cherchent à s'étendre, à grossir, à s'agrandir. La société civile cherche à s'agrandir, d'abord à l'intérieur des frontières, la société civile française en France, la société civile des États-Unis aux États-Unis, et ainsi de suite. Et donc, s'étendre. Mais ça ne suffit pas, parce que depuis la fin de la Première Guerre mondiale, il est donné maintenant aux nouveaux empires, empire soviétique d'un côté, empire américain de l'autre, de s'agrandir, de pousser leurs frontières toujours plus avant, ce qui est tout à fait intéressant, parce que l'État en tant que tel ne pousse pas ses frontières. L'État cherche à faire des conquêtes, mais ne pas pousser ses frontières. Or, l'Empire, c'est quelque chose qui, normalement, par définition, pousse ses frontières plus avant. Et nous sommes donc, depuis 1917-1920, témoins de deux empires, l'américain et le soviétique, qui, au fond, tiennent le même langage et qui ont plus ou moins la même politique. Quelle politique ? La politique de se dire que nous ne sommes pas des nations. L'Union des républiques socialistes soviétiques, n'est-ce pas ? Ce n'est pas une nation. Nous sommes les États-Unis, ce n'est pas une nation, parce que dans un cas comme dans l'autre, on invite toutes les autres nations à se joindre à eux. Donc, les États-Unis, c'est un noyau d'humanité. L'Union soviétique, il y a encore 5 ou 6 ans, était un noyau d'humanité. Si une république quelconque décidait de se joindre à l'Union soviétique, eh bien, cela, c'était possible. Une société, une république socialiste de plus. La même chose aux États-Unis, par d'autres moyens, mais les États-Unis s'y invitent les autres à se joindre à eux, par toutes sortes de truchements. C'est l'habitude des empires. J'ajouterais que c'est l'habitude des empires modernes, parce que, étant donné la crise de l'État, la crise de la foi, de la religion, il reste quand même cette société civile hégémonique qui s'étend maintenant. Donc c'est au nom non pas d'une conquête, non pas d'une conquête militaire, non pas d'une conquête idéologique dont on parle, mais davantage de conquêtes, surtout économiques. Alors chacun de nous deux empires, vont créer une espèce d'universalité, la limite étant la planète. Donc, créer des empires planétaires, c'est aujourd'hui l'objectif numéro un de notre XXe siècle finissant. Et on peut quand même prévoir que le XXIe siècle verra soit l'échec de cet empire planétaire, soit justement la réussite de cet empire. En 1943, le président Roosevelt... C'était vers la fin de la guerre et on pouvait déjà prévoir un peu la conclusion, disait à son fils, qui l'interrogeait, « Mais tu vas voir qu'il y aura deux empires après la guerre. L'empire américain, il ne disait pas empire, un Américain ne dit jamais le mot empire parce que ça veut dire impérialiste, ça veut dire mauvais, c'est négatif, tout ça. Mais enfin, deux immenses unités, l'unité américaine et l'unité soviétique. Et alors, les États de la planète vont voter soit pour l'un ou pour l'autre, et vont se joindre soit à l'Empire américain, soit à l'Empire soviétique. Et puis dans une deuxième phase, tu verras que ceux qui avaient voté pour l'Empire soviétique vont voter pour l'Empire américain. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Un de ces empires universels, ou disons à vocation universelle, disons à ambition universelle, a échoué dans sa tâche, n'est-ce pas, pour des raisons qui ne nous sont pas aujourd'hui importantes, et l'autre a recueilli tout cet héritage, et selon la prédiction, la prévision de Roosevelt, et alors selon les propos de George Bush, ça s'est réalisé en 50 ans. C'est-à-dire que la plupart des pays se joignent aux États-Unis, faisant partie d'un empire, d'un empire universel, forcément planétaire. Ce n'est pas que les États-Unis cherchent à contraindre les autres nations de participer, de devenir membres. Si vous voulez, c'est l'histoire qui les contraint, parce que nous vivons dans une société civile où l'intérêt national en tant que tel, dans le sens militaire et religieux du passé, ne joue plus, c'est l'intérêt national est devenu économique. Alors, se joindre à un empire à vocation planétaire qui vous propose une idéologie qui s'appelle libéralisme, capitalisme, qui vous propose donc une idéologie de vous enrichir, de créer la prospérité chez vous, eh bien, est irrésistible. Donc nous sommes dans cette situation que deux grands empires se sont constitués sur la ruine de l'État classique, sur la ruine de la religion romaine, et ces deux États ont leur propre idéologie, leur propre programme, leur propre stratégie de conquête, c'est-à-dire pas deux, mais un seul. Je dirais donc que nous sommes en face d'une situation qui s'est déjà reproduite, mais pas exactement de la même manière. Il faut remonter à il y a 3-4 000 ans pour constater la même chose dans le noyau de l'Occident, c'est-à-dire dans le Moyen-Orient. Il y avait d'un côté l'Empire égyptien, de l'autre côté il y avait l'Empire syrien, assyrien, chaldéen, babylonien, tout cela, parce qu'au cours de l'histoire, ça a changé de nom. C'était la même chose, n'est-ce pas? Les deux empires étaient en guerre, seulement ces deux empires n'étaient pas encore des sociétés civiles, parce que l'économie n'était pas encore assez développée dans ce temps-là. Plus tard, la même chose se reproduit, il y a Rome, un des empires, Carthage, l'autre. Vous connaissez la suite. Carthage, c'est un peu Moscou, échec, victoire de l'autre, c'est l'Empire romain qui est devenu empire universel, planétaire, dans les termes en usage à ce moment-là, étant donné que le monde était beaucoup plus petit, le monde méditerranéen, le monde occidental. Donc ce n'est pas nouveau, ce qui est nouveau, c'est que ce sont des sociétés civiles qui s'étendent. Ça ne s'est jamais vu. Et qui s'étend non pas selon le code militaire ou la stratégie militaire, au contraire, c'est au nom du pacifisme. Mais bien, parce que bien entendu, la Russie soviétique était pacifiste, les États-Unis sont pacifistes, on ne peut pas aujourd'hui, lorsqu'il n'y a pas d'État et qu'il ne peut pas maintenir les symboles de la nation, les symboles, si vous voulez, même agressifs de la nation, il y a aujourd'hui. Il n'y a pas de discours militaire ou militariste. Il y a aujourd'hui discours économique, mais qui équivaut au militaire, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on n'envoie pas le soldat et on n'envoie pas le missionnaire, c'est-à-dire l'État et l'Église étant paralysés par la société civile, mais on envoie le businessman. Ou bien on envoie Clinton et les autres présidents et les autres chefs d'État. De quoi parle-t-il? Économie. Uniquement économie, il ne viendrait pas à l'esprit du premier ministre japonais ou de Clinton ou de Helmut Kohl de parler d'autre chose que de l'économie. C'est aussi une arme, et une arme aussi à plusieurs tranchants que le couteau ou le sabre ou la mitraillette. C'est-à-dire que l'histoire continue, malgré les prévisions de M. Fukuyama, l'histoire continue, heureusement, et, mais avec d'autres armes, et en même temps avec les mêmes armes. Seulement, les armes s'appellent autrement, et on les manipule également d'une autre façon. Alors, deuxième partie, si vous voulez. Si vous acceptez ces prémices et l'élaboration de ces prémices, alors, le point suivant, c'est de voir si les États-Unis sont capables de se charger de cette immense responsabilité d'être le noyau d'un empire universel, d'un empire planétaire. La Russie soviétique, a fait la démonstration qu'elle n'en était pas capable. Il y avait une guerre, celle d'Afghanistan, qui n'a pas marché. Or, un empire universel doit réussir ou disparaître. C'est ça la logique des empires. On ne peut pas reculer. Une nation peut toujours reculer parce qu'elle recule sur sa population autochtone qui accepte la défaite, qui accepte le destin de la nation. Un empire où il n'y a pas une nation, une population, mais plusieurs, par définition, ne peut pas accepter la défaite. Alors, l'empire doit continuer à marcher d'une réussite, d'une conquête à l'autre. Eh bien, est-ce que, après la démonstration soviétique, que l'Union soviétique n'était pas capable de maintenir l'empire planétaire, est-ce que les États-Unis sont capables de maintenir un empire planétaire? Ma réponse est que non. Et nous devons nous féliciter, parce que ce que je raconte ici avec des termes que j'espère objectifs, il y a également une passion, une peur de ce qu'un État universel ne peut être que totalitaire. Absolument totalitaire. Un État mondial ne peut tolérer aucune espèce de contradiction parce que ce qui est risqué dans une contradiction d'un État planétaire, c'est justement le gouvernement planétaire. Donc, malgré tout ce qu'on raconte de beau et de bien sur le gouvernement mondial, sur le mondialisme, sur le nouvel ordre mondial, ce serait une chose absolument affreuse avec des goulags partout. Parce que un État, une nation, a beaucoup plus de liberté. Elle peut accepter la défaite, comme je vous disais avant. Elle peut accepter des insurrections. Mais combien d'insurrections et de révolutions dans un même État ? Nous en avons la preuve depuis toujours, depuis 4000 ans au moins. Mais un État planétaire est soit planétaire, soit il n'est pas, c'est-à-dire un empire planétaire. Donc ce serait une chose intolérablement totalitaire. Mais ce n'est pas nécessairement la raison pour laquelle les États-Unis ne peuvent pas devenir un empire planétaire. Mais c'est qu'il y a au fond comme un noyau de pensée, de réflexion, de sentiment, d'idéologie, j'ajouterais, des États-Unis, des Américains, une conviction qui sont supérieurs aux autres peuples. Vous étant nos voisins, vous le savez peut-être mieux que d'autres, que les États-Unis cherchent depuis Jefferson, depuis les Puritains, à conquérir le monde, non pas dans les termes mondiaux auparavant, mais d'aller d'une conquête à l'autre, non pas militairement, mais économiquement. C'est la société civile qui s'étend avec l'arme économique, avec la volonté de faire le bonheur des autres, faire le bonheur de la planète. Il faut toujours se méfier quand quelqu'un veut faire notre bonheur. Et c'est lui qui choisit et le bonheur et les armes, et les instruments. Donc les États-Unis, depuis Jefferson, voilà, c'est cela. Ils cherchent doucement à s'emparer du monde, de la planète. Et lorsque Fukuyama dit que l'histoire est terminée, qu'est-ce que ça veut dire? Que l'histoire s'est terminée parce que les États-Unis n'ont plus d'objectifs majeurs. Tout va dans la direction fixée par les États-Unis. lorsque Bush ajoute au propos de Fukuyama nouvel ordre mondial, mais qu'est-ce que c'est? C'est une façon impérialiste américain de se dire que nous avons la vocation, la mission de vous apporter, vous, planète, un nouvel ordre. Encore une fois, ça ne s'est jamais vu sur l'échelle que nous le voyons aujourd'hui. Mais comme disaient certains observateurs, surtout étrangers, chaque grand empire a des observateurs, heureusement des observateurs étrangers qui voient beaucoup mieux la chose, parce qu'un historien impérial est forcément subjectif, non de son empire. Un historien national peut dire la vérité parce qu'il y a d'autres nations, on peut le contrôler ce qu'il dit. Mais un historien impérial, il n'a pas de limite, tout ce qu'il dit, c'est la vérité pure. Or, le premier grand historien, le premier grand observateur des États-Unis, c'était Tocqueville. Donc, il y a exactement 160 ans, et les deux volumes de l'ouvrage de Tocqueville, Démocratie en Amérique, sont aujourd'hui aussi valables qu'au moment où il les a rédigés. Et il parle déjà de, non pas d'un système totalitaire, il ne connaissait pas le terme, il dit tutélaire, société tutélaire. Chacun fera ce que l'autre, il ne dit pas Big Brother, mais enfin il pourrait dire le mot s'il l'avait inventé, Big Brother is watching you. Et c'est l'avenir des États-Unis, dit-il, parce que les États-Unis étant un pays puritain, et un puritanisme qui, à la rigueur, coïnciderait avec les limites de l'empire planétaire, eh bien, ce puritanisme serait tellement contraignant que, finalement, ce serait un État totalitaire, une société totalitaire. Encore une fois, Tocqueville dit tutélaire parce que le mot totalitaire n'existait pas. Mais plus près de nous, et je pourrais vous citer une quantité de personnes plus ou moins en accord avec Tocqueville, seulement jamais aussi intelligent que l'observateur français, mais il y avait l'observateur allemand juif, Hans Morgenthau, qui enseignait il y a encore une vingtaine d'années dans les universités américaines, mais qui s'exprimait très clairement et très honnêtement sur ce qu'il pensait de l'Amérique. Eh bien, il disait que le rêve américain, c'est d'abolir la politique étrangère et la remplacer par une espèce de fraternité mondiale. Bon, Morgenthau ne dit pas ce que je dis, empire planétaire, mais enfin, c'est un peu cela. État, société tutélaire, comme disait Tocqueville, société ou État, comme dit Morgenthau, avec l'abolition des frontières, parce qu'il n'y a plus de politique étrangère, alors pas de frontières non plus. Et donc, aujourd'hui même, disait Morgenthau il y a une trentaine d'années, c'est le grand rêve des États-Unis, c'est d'abolir la politique étrangère. Mais ce qu'il n'a pas ajouté, ce que je viens d'ajouter moi, c'est que cela n'est possible que si un empire universel se crée à partir d'une conquête paisible, non militaire, mais économique. Parce que c'est cela l'essentiel, c'est la substance de la politique de la société civile, c'est l'économie. Bon, donc nous avons une espèce d'économie, un système planétaire basé sur l'économie et en effet planétaire. Seulement, est-ce que cela marche? Est-ce que cela est imaginable qu'une société devienne planétaire sans avoir jamais conquis les autres nations, qui sont encore des nations, leur ayant lancé une invitation de se joindre au noyau, qui est dans ce cas l'Amérique? C'est peu possible parce que l'Amérique, ou l'Américain plutôt, a une espèce d'idéologie qui lui est profondément soudée. Qu'est-ce que cette idéologie ? Jean-Paul Sartre, philosophe athée, qui est venu en 45 ou 46 aux États-Unis pour une première visite qui a duré 3 mois. Au départ, les journalistes lui ont posé des questions dans le port de New York, ce que vous pensiez de l'Amérique, des Américains, des intellectuels, des professeurs. Et Sartre répondait, parce que Sartre n'était pas un imbécile, malgré sa philosophie, je ne pouvais pas m'entretenir avec les Américains parce qu'ils ne croient pas au péché originel. C'est Sartre qui l'a dit. Orfèvre en matière, j'allais dire que parce que lui non plus ne croyait pas au péché originel, mais il est évident qu'il y croyait. Lorsque les choses étaient vraiment solides et on était là, une fondation rocheuse de cette stabilité, de cette situation politique, il disait qu'il ne pouvait pas croire au péché originel. Il y avait également, alors là, le théologien protestant américain, Niebuhr, qui a tout un ouvrage là-dessus, en disant que l'Américain croit, mais c'est plus que croire, c'est une idéologie, que le péché originel a été laissé sur l'autre rivage, que tous ceux qui sont arrivés ici, les immigrants, enfin c'est-à-dire le peuple américain, ont laissé le péché originel de l'autre côté, en Europe. Aujourd'hui, peut-être en Asie et ailleurs, et ils sont ici, ils ont gagné une innocence, donc sans péché originel. Il est très difficile de gouverner un empire universel rien qu'avec l'économie et avec une idéologie qui dit que le peuple fondateur de cette société planétaire est innocent. Il n'y a pas d'innocence dans l'histoire. Personne n'est innocent. On n'a jamais vu un État innocent. On n'a jamais vu une classe sociale innocente. Ceux qui disent innocents, et vous le savez très bien, les Américains pensent vraiment qu'ils sont innocents. Ils ne pensent vraiment pas dans les termes du péché originel. Ils ne pensent pas dans le terme de nation. Ils ne pensent pas dans le sens de division de la société en aristocratie, en oligarchie, en caste, en classe, tout le reste. Tout doit se souder en une seule immense unité à l'échelle planétaire, une unité humaine. Avec ce principe, on ne peut pas gouverner. On peut gouverner comme Genghis Khan. On peut supprimer ses adversaires. On peut gouverner comme Staline. On envoie les adversaires dans les goulags. Mais chaque régime a toujours un ennemi, comme le dit le grand penseur de droit et de philosophie politique, Carl Schmitt, l'Allemand qui est mort récemment, et qui disait qu'un État se définit par les ennemis et par les amis. Un État doit savoir qui sont ses ennemis, doit savoir qui sont ses alliés et doit pouvoir dire qui sont, donc ouvertement, franchement, à soi-même, aux autres, qui sont les ennemis, qui sont les alliés. Or, un système planétaire qui ne reconnaît pas l'ennemi parce que nous sommes bons, c'est l'idéologie américaine de se dire bon, de se dire angélique, de se dire non pas atteint de ce mal qu'est le péché originel, ne peut pas avoir d'ennemis. Par conséquent, il va se répandre un peu partout jusqu'à ce qu'il trouve un obstacle. Et l'Amérique, comme la Russie soviétique, a trouvé un obstacle, sans aller maintenant dans l'analyse quels étaient au pluriel ces obstacles, nous pouvons dire qu'un État américain, système planétaire, ne peut pas mettre fin à l'histoire parce que dans son expansion, il trouve devant lui, il trouve sur son chemin des ennemis. Donc on ne peut pas être impunément moral quand on est un État, universel ou autre. Parce que ce qui s'applique à un État, c'est autre chose que ce qui s'applique à un individu. Un individu peut être toujours moral. Il peut faire des sacrifices jusqu'à sacrifier sa propre existence. Un État ne peut pas le faire. Un État est responsable de ses citoyens, donc on ne peut pas décider à Washington qu'on va commettre suicide. Par conséquent, il y a des obstacles, je dirais, de nature morale à cette expansion. Mettons que pour l'instant, il n'y a pas d'obstacle de nature physique. Aucun État du monde n'est aussi armé que les États-Unis. Aucun État au monde, aucune société au monde n'est aussi prospère que celle des États-Unis. Toute la solidité des États-Unis que vous connaissez aussi bien que moi. Mais c'est là où le bât blesse. De se penser en tant qu'entité morale. Un État ne peut pas le faire. Par conséquent, plus on fait la politique d'expansion, et plus on rencontrera ceux qui disent non. Parce que vous n'êtes pas moral. Le fait, déjà, votre expansion est amorale. Donc, d'une façon ou d'une autre, cet État qui se répand d'une façon économico-morale, et avec ces deux mots, j'ai défini les États-Unis, y compris leur politique étrangère, avec ce genre de pensée, on ne peut pas créer un grand empire. On peut créer un empire en contraposition à un autre empire, notamment soviétique. Mais il n'y a pas de soviétique, ce qui est une immense perte pour les États-Unis. Les États-Unis pouvaient survivre en tant que grande puissance aussi longtemps qu'il y avait l'Union soviétique. Les États-Unis, de par leur nature morale, ont besoin de se savoir ange contre le diable. Or, le diable a tout simplement vidé les lieux. Il a disparu. Et les États-Unis sont restés avec cette extraordinaire responsabilité maintenant de créer éventuellement un obstacle. Or, il n'y en a pas, parce que si l'histoire est terminée, si nous sommes engagés dans la création du système planétaire, le nouvel ordre mondial, alors évidemment, il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas d'empire qui puisse nous résister. Et les États-Unis sont incapables, avec l'économie politique qu'ils ont, incapables avec la moralité qu'ils entretiennent, incapables de faire cette expansion, cette politique expansionniste qui est dans la nature de tous les empires. Rome avait la même tentation, seulement et après avoir battu Carthage. Heureusement pour Rome qu'il y en avait tout de suite d'autres candidats à être battus. La Syrie, la Macédoine, l'Égypte, l'Asie mineure. Voilà, il y avait tout de suite. Et heureusement également pour Rome, l'ennemi est toujours resté, notamment en tant qu'empire. Il y avait l'empire parthe. Et après cela, il y avait l'empire perse. Donc il y avait toujours quelqu'un qui était le partenaire ennemi de l'État romain, de l'Empire romain. Mais enfin, aujourd'hui, avec toute la planète à notre disposition, les États-Unis se trouvent un peu dénudés. Cela ne s'est jamais produit, qu'un empire soit victorieux au fond sur rien. Donc c'est une victoire dans le vide. Et ce serait assez intéressant, pendant les années qui viennent, d'observer comment les États-Unis sortent de ce malaise, de cette situation inédite, de cette situation jamais encore produite dans l'histoire. Si les États-Unis sont capables, eh bien c'est le moment de le montrer. Mais lorsqu'on pense vraiment à ce que les États-Unis croient que c'est la fin de l'histoire et qu'avec l'échec de l'Union soviétique, l'ennemi a disparu de l'horizon, évidemment, c'est une naïveté extraordinaire qui est dans le jeu des puritains, mais qui n'est pas dans le réel. La réalité n'accepte pas cela. Et en conclusion, j'aimerais ajouter seulement la dernière mode aux États-Unis que vous connaissez, parce que j'imagine que c'est la même mode chez vous, le political correctness. On a dit toutes les bêtises du monde pour diagnostiquer le political correctness, notamment, on a dit, c'est dans les milieux conservateurs réputés pour avoir une pensée assez plate, que c'est l'invention du marxisme. Les derniers marxistes ont laissé comme héritage le political correctness sur les campus américains pour se venger de leur défaite. Inutile de vous dire que c'est un diagnostic aussi mauvais dont la droite est coutumière. Non, il ne s'agit pas de cela. C'est justement une affirmation de la planète, de cette société planétaire sans limites et sans frontières. Parce que de quoi s'agit-il? Il s'agit d'avoir toute la population éventuellement de la planète. Une petite partie de cette population se trouve déjà aux États-Unis. Une partie encore plus petite se trouve sur les campus américains. C'est le tiers-monde. Le tiers-monde entier se trouve sur le campus américain. Eh bien, ce tiers-monde confronte l'Amérique avec ses propres slogans en disant « Vous nous parlez d'empire universel, eh bien, nous vous donnons l'occasion d'avoir une petite... de commencer un noyau universel sur vos campus. Alors, abandonnez vos études à tendance européenne, abandonnez vos études à tendance antique, Grèce, Rome et le reste. Adoptez le tiers-monde, parce que le tiers-monde veut bien vous adopter dans ce système sans fin et avec l'histoire finie. Mais nous sommes là, vous pouvez tout de suite faire cette même politique, vous pouvez faire la preuve de ce que le tiers-monde fera désormais partie de votre univers expansionniste, de votre empire planétaire. Alors c'est ça, les États-Unis sont d'ores et déjà confrontés sur le campus, mais aujourd'hui, ce n'est pas à vous que je dois dire cela, le campus est une espèce de microcosme. C'est la société, c'est à partir du campus que les mouvements d'idées et les autres mouvements prennent leur départ. Donc il y a le campus américain déjà acquis à cet multiculturalisme qui vous est tellement connu, à vous aussi, et de plus en plus en Europe. Multiculturalisme veut dire la culture, si on appelle ça culture, mais enfin on aime encore appeler ça culture, c'est la culture planétaire. Et les États-Unis se sont chargés d'être les agents, d'être les porteurs de cette culture qui s'installe déjà dans leur campus. Alors, ce n'est pas un tableau imaginaire que je vous peins. Je vous peins déjà les premiers mouvements de cet empire planétaire que les États-Unis sont en train de créer après avoir imposé la défaite sur l'autre empire, l'empire concurrent. Eh bien, il y a ici déjà les limites de l'empire. Nous voyons que cet empire universel créé par les Américains ne pourrait pas aboutir, ne pourrait pas se réaliser, parce que tout de suite, on les met devant leur responsabilité de non-nation. Parce que political correctness, ça veut dire, au fond, vous n'êtes pas une nation. Vous serez une nation lorsque nous autres tiers-monde, nous nous installerons chez vous, et bien entendu, vous vous installez chez nous, ce sera un système planétaire, et alors, cherchons déjà à le réaliser sur notre campus. Donc il y a pas mal d'obstacles à cette universalisation des États-Unis, mais nous vivons justement au moment, au seuil, où cette grande tentative est en train d'être lancée. Si cette tentative aboutira ou non, eh bien, nous le verrons dans quelques années. Merci bien.
Tout à fait, je suis d'accord avec vous. C'est justement, si vous voulez, c'est le symptôme numéro un de la situation que je décris. Le gouvernement ne gouverne pas. Le gouvernement aide à faire des transactions économiques. Il est profondément engagé parce que le gouvernement veut quand même retirer quelque chose de ces affaires. Donc, tout a été faussé. Nous vivons dans une période faussée. L'État ne fait pas ce qu'il doit faire, l'Église non plus et la société non plus. Certains font moins, certains font plus. Enfin, ce n'est pas l'équilibre qui ne sera jamais d'ailleurs créé, il n'y aura jamais d'équilibre. C'est une espèce de terme ultime auquel il faut, dans la mesure du possible, se conformer, sans jamais vraiment atteindre, n'est-ce pas ? Nous sommes mobiles, surtout dans les sociétés occidentales, donc on n'atteindra pas l'équilibre. Je crois que cet équilibre existait, mais très brièvement, au XVe siècle, où l'Église était déjà assez faible, la royauté n'était pas encore assez forte et les bourgeois, c'est-à-dire la société civile, cherchaient à devenir riches, à devenir prospères, une espèce d'équilibre. Mais c'est très rare.
Étant donné la polarisation qui a toujours existé depuis que l'Empire communiste était en place, comment voyez-vous le rôle des Nations unies? Dans la mesure où la polarisation n'existe plus au moment où on se parle, du moins avec l'Empire soviétique, s'il en reste.
Et est-ce que les États-Unis, à part d'être le gendarme du monde, ne sont pas appelés à jouer un rôle qui va peut-être prendre toute la place?
Les Nations Unies, à mon avis, c'est un instrument, comme l'ambassadeur de telle ou telle nation est un instrument. Les Nations Unies n'ont pas de volonté propre, n'ont pas d'existence, les Nations Unies n'existent pas, que par la volonté des grandes puissances, qui à ce moment-là, c'était la Russie et les États-Unis, et depuis ce moment-là, les Nations Unies sont l'instrument des États-Unis. Il n'y a pas d'autres Nations Unies, et lorsqu'on parle de l'intervention de la Nations Unies, c'est la plus grande hypocrisie du monde. C'est les États-Unis qui interviennent sous le masque, n'est-ce pas, populaire, Nations Unies, planétaires et tout cela. Et les États-Unis continueront à se servir des Nations Unies jusqu'au moment où, éventuellement, une plus grande puissance, l'Islam par exemple, prendra le pouvoir et alors les Nations Unies seront aussi islamiques qu'ils sont aujourd'hui occidentales.
Ça risque de ne pas arriver parce que les Nations Unies, ce n'est pas une chose importante. C'est bien pour les discours des politiciens, pour les manuels scolaires, mais ça n'existe pas. Donc les États-Unis ont besoin des Nations Unies justement parce qu'ils n'ont pas la volonté identitaire de jouer le jeu de la politique impérialiste qui est la leur. Donc ils ont besoin de toutes sortes de subterfuges pour pouvoir jouer, faire le jeu et ne pas le faire. N'est-ce pas? Les États-Unis, il y a le sénateur Fulbright qui a écrit il y a une vingtaine d'années un ouvrage où il disait que les nations, il y avait l'impérialisme dans le monde. Évidemment, les États-Unis n'ont jamais été impérialistes. Il est vrai que c'est un empire, une espèce de commencement d'empire, mais jamais impérialiste, parce que impérialisme veut dire égoïsme, exploitation, tout cela. Les États-Unis ne font jamais cela. Eh bien, c'est une hypocrisie affreuse, mais en même temps, c'est une politique nationale. Les États-Unis se cachent, se dissimulent, parce qu'ils ne sont pas certains de leur puissance. De temps en temps, il y a une Russie ou un Islam ou je ne sais quoi qui le lui rappelle,
qu'ils ne sont pas tout puissants. Donc les États-Unis ont davantage besoin que tous les autres pays dans l'histoire de se dissimuler derrière des façades. Les Nations Unies, c'est une façade. Donc, mais les États-Unis seront toujours très habiles à se servir des Nations Unies aussi longtemps qu'ils en ont les moyens, et ils en auront les moyens aussi longtemps qu'ils sont une grande puissance.
Est-ce que vous pensez que les États-Unis vont quand même maîtriser les nationalismes émergents qui pourraient sortir des Nations Unies, ou s'ils vont garder
tous les nationalismes qui
semblent émerger présentement dans le monde? Est-ce que vous pensez que les États-Unis vont pouvoir garder la main haute sur les nations, via les Nations Unies?
Non. Non, c'est justement leur échec. Les États-Unis n'ont pas l'expérience nationale. Les États-Unis, ce n'est pas une nation. C'est une société civile dotée de toutes sortes d'avantages géographiques, géopolitiques et tout le reste, mais ce n'est pas une nation. Elle ne sera jamais une nation parce que de plus en plus, ce pays est sur la voie de la dissolution à cause de l'immigration qui est illimitée. Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est très caractéristique de ce qui se passe, certains milieux aux États-Unis, on commence à soulever la question, le problème de l'immigration, on cherche à lui imposer des limites, mais on ne peut pas. L'idéologie des États-Unis est basée sur le rassemblement de la diaspora mondiale. Donc tout le monde a le droit de venir aux États-Unis. Donc les États-Unis ne peuvent pas faire une législation qui exclut les autres. Et ainsi, il n'y aura jamais d'identité, il n'y aura jamais de nationalisme. Et les États-Unis, par conséquent, comme ils n'ont jamais été nation, ne comprennent pas les autres nations, et encore moins les États-nations, dont l'Europe. L'Europe est pleine d'États-nations. Je dirais même que l'Afrique et l'Asie aujourd'hui est pleine d'États-nations, le communisme étant une aventure sur la voie de devenir une État-nation. Alors les États-Unis risquent de rester incompris et incompréhensifs devant le phénomène nationaliste.
Dernière question, M. Molnar, peut-être sur une note un peu plus optimiste. Je me demande si le nouvel ordre mondial n'apparaîtra pas aux historiens de l'avenir comme une espèce de mort-née, parce que ça fait à peu près 4 ans qu'il existe, en fait, du moins officiellement, depuis la guerre du Golfe, et déjà, il a subi 2 échecs assez importants. D'abord en Somalie, où les troupes de l'ONU sont allées pour sauver le peuple de la famine et se sont ensuite fait rejeter par ce peuple-là, qui était bien capable de se sauver lui-même. Et deuxièmement, dans la guerre en ex-Yougoslavie, où le nouvel ordre mondial rencontre 2 obstacles. Premièrement, les nationalismes dont vous avez parlé, serbes, croates, bosniaques. Et deuxièmement, le rôle de la Russie. Parce que vous dites que pour que cet empire mondial fonctionne là, cet empire mondial américain fonctionne, il faut qu'il n'ait plus d'ennemis. Alors certes, l'URSS, le communisme s'est effondré, mais la Russie, en tant que grande puissance, ne s'est pas effondrée. Et elle semble jouer en Serbie un rôle avec lequel Washington n'est pas d'accord. En fait, sans qu'on le sache très précisément, parce qu'on a peu d'informations réelles sur cette guerre-là, on peut penser en fait que c'est la Russie qui approvisionne les Serbes en armes. On dit même qu'il y aurait 15 000 soldats russes qui se battraient du côté des Serbes. Pour que le nouvel ordre mondial fonctionne, il faut que Moscou et Washington marchent main dans la main. Est-ce que, donc, ma question est la suivante. Est-ce que vous croyez que la Somalie et la Yougoslavie sont déjà le début de la fin pour le nouvel ordre mondial? Et est-ce que vous croyez qu'il est possible qu'on assiste à nouveau à un affrontement Washington-Moscou, non pas sous la forme du communisme, mais sous la forme du traditionnel impérialisme russe?
Je proteste contre la première phrase, quand vous avez dit que pour cesser ce pessimisme, je ne me suis pas aperçu que nous étions pessimistes. Je ne suis pas du tout pessimiste. Je constate que l'histoire est arrivée à un certain moment et demain, ce sera un autre moment. Donc, il n'y a pas de pessimisme. Il y a tout simplement des constatations réalistes qui s'imposent. Cela dit, évidemment, la Somalie, là, je suis tout à fait d'accord, c'est un échec cuisant pour les États-Unis et pour les Nations Unies. En ce qui concerne la Bosnie, enfin la, les Balkans, non, c'est un échec non pas pour les États-Unis, non pas pour les Nations Unies, c'est pour l'Europe. Et moi, je me félicite, non pas de l'aide non apportée aux Bosniaques, mais de cette cuisante échec de l'Europe, parce que l'Europe pourrait être quelque chose, et cela montre que l'Europe n'est rien, sauf des nations, ce qui est sa vocation de toujours. L'Europe était incapable de est incapable aujourd'hui de mettre fin à cette guerre. Ce n'est pas un territoire sous influence américaine. Ça aurait dû être les Français, les Allemands, les Italiens, les Autrichiens, les Scandinaves, les je ne sais quoi, à mettre fin à cette guerre. Or, ils ont prouvé qu'ils sont faibles, c'est-à-dire qu'ils n'existent pas. Et qu'ils attendent les ordres éventuellement de Washington ou bien pressionnent Washington comme des enfants pris sur le fait d'intervenir. Ils n'osent pas intervenir, or quelqu'un qui n'ose pas intervenir ne mérite pas qu'il joue un rôle dans l'histoire. Donc Maastricht, fini. C'est à Sarajevo que Maastricht est mort. Donc ce sont deux choses différentes, la Somalie et la Bosnie. En ce qui concerne la Russie, vous avez absolument raison. Mais je ne vois pas pourquoi il faut que les États-Unis et la Russie soient en alliance pour créer le gouvernement mondial. Il n'y aura pas de gouvernement mondial. C'est une impossibilité ontologique d'avoir un gouvernement mondial parce que, encore une fois, ce serait une chose atroce. La Russie sera toujours une grande puissance et qui fera le nécessaire pour contrecarrer les projets américains, comme les Américains contrecarreront les projets russes. Mais enfin, je ne vois pas que quelque chose dépendrait de leur alliance.
Merci bien, monsieur le professeur. On a appris, je crois, plus ici ce soir pendant cette conférence que de toute une année de lecture des journaux. C'est vrai, je crois que la meilleure façon de se tenir désinformé, c'est de lire les journaux, de regarder les télé. Il faut venir plus souvent en conférence. Merci beaucoup, monsieur le professeur.
Je vais vendre le numéro de New York Times. Au nom de mon analyse, et j'essaye de faire conformer les faits à cette analyse et l'analyse aux faits. C'est le seul pays où la religion a été toujours au service de la société civile. Il n'y a pas d'homme plus bon dieusard que le businessman américain. D'un côté, il prend le dollar, de l'autre côté, il prie Dieu, ou enfin, il prétend. La religion aux États-Unis ne joue pas le rôle qu'elle a joué dans tout le reste du monde. C'est autre chose. Et cela confirme mon analyse en disant que déjà la religion aux États-Unis a toujours été au service de l'homme d'affaires, de l'homme de la société privée.
Roger Huard ici. J'ai lu dernièrement un livre, enfin pas dernièrement, mais il y a une couple d'années, un livre qui semble s'opposer à votre théorie, c'est La conquête des esprits de Yves Hude, publié chez Maspero. Puis semble dire que c'est l'idéologie qui prime, c'est par l'idéologie que les États-Unis tentent de conquérir le monde. Les films, les livres, la destruction des bibliothèques au Québec et ailleurs, c'est de cette façon-là aussi. Puis j'ai travaillé aussi pour un mouvement qui s'appelait le Crédit social, où les dirigeants nous disaient, entre autres quand j'étais jeune, plus jeune, c'est que le gouvernement, puis l'État, on confondait un peu le gouvernement dans ça, le meilleur gouvernement est celui qui gouverne moins. C'est un peu selon la philosophie anarchiste, mais aussi, c'est un socialiste libertaire qui veut faire de tous et chacun un héritier communautaire de toutes les inventions modernes, de toute la production, et aussi par l'abolition de salariat et de patronat, mais aussi des privilèges des banques. En tout cas, c'est que vous dites, vous, en somme, que la substance de la société civile, c'est l'économique. Mais, par exemple, aux États-Unis, vous parlez du tiers-monde, mais dans le tiers-monde, vous semblez dire, c'est seulement l'élite des pays du tiers-monde. Mais il y a quand même, sur les 12 millions de pauvres aux États-Unis. Selon moi, c'est un tiers-monde. Il y a 35 millions d'analphabètes et d'illettrés. Je ne sais pas, mais... Puis il y a aussi la séparation de l'État. J'en dis beaucoup, excusez. Mais la séparation de l'État, par exemple, la Grande-Bretagne, on n'a jamais séparé l'État de la religion ou de la maçonnerie anglaise. Ça va tous ensemble. C'est la reine qui est... Et dans certains pays musulmans, c'est très rare les pays...
Ne me quittez pas.
Non, mais... Ma question, est-ce que... C'est vrai de dire, par exemple, que l'État va être toujours un associé, l'associé idéal de la religion pour qu'elle revienne, ce que je ne crois pas. Est-ce qu'il y a seulement que l'économique qui prime tout?
L'abbé m'aidera à voir plus clair.
Il n'y a pas de question, c'est un commentaire,
Mais il faut quand même avoir une question. Bon, je réponds très partiellement à ce que vous disiez. L'économie l'emporte sur la religion, c'est la nature humaine. D'abord les appétits, la satisfaction des appétits. Ensuite vient toute autre chose. C'est non pas dans l'ordre des vérités, c'est dans l'ordre pratique de ce qui se passe au niveau des hommes et de la société. Et je n'ai pas dit d'ailleurs cela que la pensée classique grecque classique et la pensée chrétienne a toujours compris que la société civile, justement parce que le centre de cette société est l'économie, est une chose dangereuse. Non pas dangereuse dans le sens il faut le supprimer, mais il faut le contrôler. Vous ne pouvez pas me montrer une seule période de l'époque chrétienne, donc des 2000 ans, où la société civile n'a pas été, où l'économie n'a pas été contrôlée. Les corporations, c'était justement l'expression contrôlée de la société civile, de l'économie, par l'Église. Les lois contre l'usure et tout le reste, c'était également l'Église et l'État qui contrôlaient les transactions financières. Et c'était très bien, tout le monde s'arrangeait avec cela, parce que la société civile n'est pas faite d'imbéciles. Très bien, ils savent très bien qu'il faut des lois. Il faut des lois. À Rome, il y avait tout un mécanisme de contrôle des lois. Et d'ailleurs, les marchés dans l'Europe médiévale étaient régulièrement visités par les représentants de l'Église et de l'État pour empêcher, n'est-ce pas, qu'on ne triche, qu'on ne cherche pas davantage, que les poids et les mesures soient exacts. Tout cela a toujours été le cas. Sauf que depuis la fin du XVIIIe siècle, la création de la République américaine et la Révolution française ont renversé cet ordre. Nous sommes dans une période de déséquilibre depuis 200 ans. Le déséquilibre étant que, l'État et l'Église, donc ce que Spengler appelle les institutions fondamentales, ont été non pas renversées, c'est impossible, personne ne voulait les renverser, mais les diviser. Avec cela, chacun a perdu la moitié de sa puissance. Donc il n'y a plus d'intérêt commun entre l'État et l'Église. Il y avait toujours un intérêt commun, malgré tous les conflits entre les deux. L'intérêt commun était que le fidèle, qui était en même temps citoyen, soit moral, enfin suive la morale de l'Église, et que ce même personnage suivent également la discipline imposée par l'État, c'est-à-dire qu'ils payent ses impôts, qu'ils soient mobilisables en cas de guerre, et ainsi de suite. C'était la situation jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Depuis ce moment-là, nous avons l'hégémonie de la société civile, c'est-à-dire de la transaction économique. Aidée évidemment, personne ne pouvait prévoir, la révolution industrielle et la révolution technologique. Aujourd'hui, encore une fois, de quoi parle-t-on dans les hauts milieux, y compris les chefs de l'État? C'est le business. Ils sont devenus non pas des méchants, ils sont devenus les agents de la société civile. Tel ou tel le Siemens en Allemagne, le General Motors aux États-Unis, Thomson en France, mais c'est eux qui dictent. Je ne dis pas ça comme une analyse marxiste. Je ne dis pas les puissances d'argent sont toujours les plus puissantes. Ce n'est pas vrai. Mais aujourd'hui, dans la situation renversée, c'est eux qui dictent à leurs représentants, qui s'appellent Clinton, qui s'appellent Helmut Kohl, qui s'appelle John Major, et ainsi de suite. C'est eux qui dictent. Voilà, ça va demain, ça va se terminer. Pour l'instant, c'est comme ça. C'est une façon d'expliquer encore une fois, et Dieu sait si ce n'est pas la seule façon. C'est une façon que je vous propose d'expliquer la situation d'aujourd'hui et cette expansion indéfinie vers les limites technologiques de toute la planète, dont la pièce maîtresse, c'est les États-Unis.
André Côté, étudiant ici à Laval. J'ai beaucoup aimé le parallèle que vous avez fait avec les empires égyptiens, assyriens, puis Rome, puis ce qui se passe aujourd'hui. Mais bon, aussi, vous nous avez présenté les États-Unis et l'URSS comme étant deux noyaux d'humanité en compétition pour obtenir la suprématie. Puis bon, étant donné que l'URSS est tombée, a failli, il demeure bien que les États-Unis, puis que, bon, voué à l'échec, étant donné que basé strictement sur l'économie. Mais il y a une chose qui n'est pas claire pour moi, c'est que, est-ce que vous en venez à disqualifier toute tentative d'empire comme étant voué à l'échec, puis par autre tentative d'empire, j'entends, disons, un type d'empire qui pourrait être établi sur d'autres modes que l'économie, comme par exemple la spiritualité ou la transcendance. Puis j'entends aussi par là, bon, puis mes deux questions, ben, ça serait ça, c'est est-ce que vous vouez toute tentative d'empire à l'échec? Puis d'un autre part aussi, est-ce que la communauté européenne actuellement pourrait pas être conçue comme un noyau d'humanité qui pourrait faire concurrence, puis l'emporter et rétablir, disons, un type d'empire, mais plus axé dans le sens des promesses ou de l'attente d'un roi germanique?
Arrêtez-vous, parce que vos questions sont tellement intelligentes qu'il ne faut pas continuer, il ne faut pas gâter. Okay. Je ne pourrais jamais dire que les empires sont un échec, parce que l'histoire me donnerait tout de suite le contraire, le refus. Mais il y a empire, et il y a empire universel. Jusqu'ici, peut-être pour des raisons technologiques, pour 100 000 raisons, les empires ne pouvaient pas dépasser une certaine limite. Que ce soit l'empire tartare, que ce soit l'empire chinois, que ce soit l'empire britannique, espagnol, tout ce que vous voulez, on n'a jamais dépassé une certaine limite. Aujourd'hui, pour des raisons technologiques ou autres, à mon avis idéologiques, on dépasse la frontière et on arrive à la frontière de la planète. Et je dirais même davantage, c'est important pour le mythe de ces empires de pouvoir aller dans les autres galaxies. C'est très important, ça, à son côté religieux, mythologique. Donc, nous sommes devant une situation inédite, dans ce sens-là. Rome ne pouvait pas aller au-delà de Carthage, enfin, pas beaucoup. Il y avait encore un pays à conquérir. Mais aujourd'hui, on peut aller à n'importe où, d'autant plus qu'on se présente non pas avec les armes à la main, mais avec le dollar, et avec les joint ventures, et avec les investissements, et avec les dons,
et les remises de dettes. Voilà, donc il y a 100 000 moyens de pénétrer aujourd'hui dans la planète et d'occuper la planète. Donc je trouve que l'Empire est une chose tout à fait normale, mais l'Empire universel est une chose dangereuse. Maintenant, vous dites, deuxième question, si l'Empire, si l'Europe unie, qui fait semblant de s'unir, de vouloir s'unir, et pourrait devenir un empire, je dirais que non. Parce que d'abord, les nations européennes, à l'heure où nous parlons, sont encore beaucoup plus puissantes que l'idée d'un empire européen. Personne en Europe ne peut concevoir ce que c'est qu'une Europe universelle, une Europe unie, et le terme est devenu ridicule. Enfin, le mot Maastricht prend sa place légitime dans les journaux comiques. Ça ne se réalisera pas. Ce n'est l'intention d'aucun gouvernement, bien que le langage aujourd'hui, sous l'influence américaine, parce que tout est unité, le langage soit aujourd'hui extrêmement favorable à l'Europe unie, mais ceux qui prennent les décisions n'osent pas. La Cour suprême de l'Allemagne vient de décider, non, mais on ne peut pas, on peut s'unir dans telle ou telle alliance douanière, par exemple, mais on ne peut pas renoncer à la souveraineté. Et si les Allemands décident que non, ce sera non, parce que le seul pays puissant en Europe, c'est l'Allemagne. Donc, pour l'instant, le sujet ne se pose pas, sauf dans les journaux, n'est-ce pas, qui disent n'importe quoi selon les nouvelles du jour. Mais à regarder la situation dans une perspective historique par laquelle j'entends le passé et l'avenir, je ne vois pas comment une Europe s'unirait. Et je vous dis pourquoi. Parce que les Hongrois, mon peuple, détestent les Roumains, n'entreraient jamais dans une unité. Et si vous ne croyez pas, regardez du côté des Serbes et des Bosniaques ou des Croates, qui se détestent tout aussi entièrement et qui en font la preuve chaque minute. Donc, chercher à unir la Bosnie et la Serbie, la Roumanie et la Hongrie, la Tchéquie et la Slovaquie, l'Ukraine et la Russie, et vous verrez à quel point vous courez vers l'échec. Donc, de ce côté-là, pas de formation de l'Empire. Il y a là un monsieur qui m'a...
L'électricité statique.
Parler est dangereux.
Oui, c'est écrire, c'est moins dangereux parce qu'on peut le contrôler, mais parler, c'est surtout parler. Il me semble que je vais me jeter en plein l'océan. Là, quand on parle de globalisme, c'est difficile. Moi, je commencerai juste par les prémices que vous avez échafaudées au début, pour une mise au point un petit peu géographique. Quand vous avez parlé de l'Égypte, vous avez dit le noyau de l'Occident. C'est des illusions d'ordre géographique qui sont très difficiles. Des fois, les journalistes, ils font des approximations. L'Égypte, à ma connaissance, n'a jamais été le noyau de l'Occident. Vous l'avez dit, hein? Je peux vous le jurer. Parce que ces notions-là, elles sont utilisées et servies à toutes les sauces. Hein? Ça dépend comment on veut les servir, l'Orient, l'Occident. Donc. Moi, je veux juste vous poser une question. Est-ce que vous avez dit que les États-Unis, comme tout empire, a besoin d'un repoussoir, d'un ennemi, imaginaire ou réel, fictif ou... Est-ce que vous pensez, d'après ce qui se dit, ce que les gens, même qui ont déterré Nostradamus et ses thèses, ils pensent que l'ennemi qui viendra s'opposer à l'Empire américain et le défier, ce serait un musulman, un intégriste, un islamiste, tel qu'on entend ça actuellement. Juste un petit point que j'ajouterai, une petite parenthèse, parce qu'à chaque fois que j'ai entendu, même chez Michel Foucault, j'ai sans notion de la gouvernementalité, l'historique qu'il adressait sur la notion du berger et du troupeau, qui a été récupéré par l'État et il a laissé l'Église de côté dans la séparation des pouvoirs. Il y a toujours cette occultation de 8 siècles au moins d'histoire musulmane, parce qu'on la cache par le voile trop sombre du Moyen-Âge. Nous autres musulmans, on n'a pas connu le Moyen-Âge à ce moment-là. Et qu'on baisse le voile là-dessus. Et cette réalité, elle a ses racines, même si elle est sous-développée, elle est encore là. Elle ne veut que demander sa part de développement et de toute autre chose que vous savez certainement, mais qu'on essaie toujours à ériger comme un monstre qui va surgir ou ressurgir des fonds de l'histoire. Merci.
D'abord, si j'ai bien compris, je n'ai jamais dit que l'Égypte a été le centre du monde, le noyau de l'humanité, je n'ai jamais dit cela. Mais vous admettez qu'à un moment de l'histoire, disons entre 2500 ans avant Jésus-Christ et 1000 ans avant Jésus-Christ, donc pendant une et demi millénaire, l'Égypte était la grande puissance. Et ben dans la Méditerranée, n'est-ce pas, nous parlons d'un petit coin de la planète. Et que l'autre, le repoussoir, c'était tour à tour la Syrie, le Babylone et finalement la Perse, qui a prouvé par sa force supérieure à l'Égypte, mais à ce moment-là, l'Égypte n'était plus l'Égypte. Donc c'était si vous voulez, jouer le jeu, le bon jeu, ce qu'a fait l'Égypte, en cherchant à conquérir la Libye d'un côté, l'Abyssinie même, et certainement la Syrie, la Judée, et jusqu'à l'Irak actuel. Deuxième chose, si je vois les États-Unis ayant comme repoussoir l'islam, non, je ne vois pas cela, non. D'abord, les États-Unis ne peuvent pas comprendre l'islam. Ils prennent l'islam pour une espèce de Genghis Khan, bande de barbares qui se déchaînent, bande de barbares, Saddam Hussein, Assad, dont c'est plein de... Mais les États-Unis ont en effet besoin d'un Satan. Le Satan, ce sont aujourd'hui les Arabes. Mais cela ne pourrait jamais être de véritable repoussoir pour les États-Unis, parce que les États-Unis ne comprennent pas la religion. Donc, cela, on ne saura jamais à Washington si c'est une religion, une idéologie marxiste, demi-marxiste, une espèce de force de la nature, ce que c'est. On ne sait pas, on ne connaît pas le passé de l'islam aux États-Unis, donc on ne sait pas quelles sont les réserves de l'islam, véritablement. Ça s'arrange d'un jour à l'autre et puis on paye encore une fois les souverains saoudis quelques milliards de dollars et tout sera arrangé. Je ne crois pas que les États-Unis aient une vue autrement sophistiquée de l'islam. Alors je crois que la troisième question, c'était si l'islam cherche à dominer. Non. Oui, l'islam cherche à dominer, ce qui est tout à fait naturel.
Non, pas dans la façon que c'est médiatisé aujourd'hui qui va le droit.
Nous,
on essaie de montrer, comme oui. Vous l'avez dit, des hordes barbares.
On dit qu'ils ont le droit à se développer, mais disons,
oui, mais
parler de domination.
Oui. Vous voyez, lorsqu'on se développe, le mot développement a reçu un sens insignifiant et prosaïque dans le monde d'aujourd'hui. Celui qui développe veut se développer beaucoup plus et veut pousser ce développement. Donc au bout du développement, il y a tout de suite l'impérialisme. Ce qui est normal, ce n'est pas à condamner, c'est dans la nature humaine.
Excusez-moi si vous permettez, l'islam actuellement qu'on appelle intégrisme ou islamisme, fondamentalisme, toutes les ismes qu'on les passe, il est sur la défensive et il a besoin d'une reconnaissance. Et l'occidentalocentrisme, on peut dire européocentrisme, qui est repris par le relais, repris par les Américains, on ne veut pas entendre parler de différence, parce que le rouleau compresseur, il faut qu'il passe par les lois du marché.
On ne peut pas compter sur la reconnaissance. Ça n'existe, c'est une notion non historique. Je ne sais pas ce que c'est que la reconnaissance. Donc, l'islam devra faire ce qu'il veut faire par ses propres efforts.
Il faut s'imposer.
Il ne sera jamais aidé. Et je suis d'accord avec vous. Quand je dis islam, je sais que l'Indonésie est un État islamique. De l'autre côté, la Mauritanie également. Je n'imagine pas une alliance entre l'Indonésie et la Mauritanie. Mais je pense à une espèce de Oumma, plus grand que la Méditerranée de l'Est, et quand même un centre d'attraction pour le reste de l'islam, enfin pour pas mal d'autres islams, sauf évidemment l'Iran, ça c'est toujours autre chose.
Oui. Merci.
Quand vous parlez de l'Europe, que c'est un tableau utopique ou une utopie de voir une Europe unie telle que les... Car si le Seigneur ne construit la maison, vaine est la tâche des maçons, nous dit l'Écriture. Donc ce que les hommes veulent faire, leur tour de Babel, si Dieu... Mais le pape Jean-Paul II a demandé aux Européens de retrouver le sens du christianisme. Que sans cela, c'était impossible. Alors, justement, en termes de chrétienté, maintenant, vraiment, si on est à un tournant de l'histoire, puis que nécessairement on s'en va vers l'Imperium Mundi, nécessairement, c'est par le christianisme, si à un moment donné, la foi chrétienne pouvait renaître, peut-être que les Croates, puis que les Hongrois, puis les Roumains, s'ils se retrouvaient dans une même foi, est-ce que c'est possible d'entrevoir, je veux dire, à la faveur de quels événements, un réveil de la chrétienté, de la foi chrétienne, qui pourrait justement être, au moment où tout semblerait perdu, ça serait la réponse où, avec le concours de certains événements, des êtres humains, des autorités, à un moment donné, on reviendrait, puis que...
C'est une très belle déclaration utopienne. Je considère l'utopie dans un ouvrage... comme immoral, parce que penser que la réalité est autre qu'elle n'est, à mon avis, c'est une espèce de péché. Je ne sais pas ce qui va arriver demain. J'espère que les Hongrois et les Roumains ne feront jamais la paix. Mais j'ajoute à cela que si vous pensez que cela suffit, les éléments que vous avez mentionnés, si cela suffit, si vous pensez que l'Europe est aujourd'hui chrétienne, si vous pensez que les appels du pape Jean-Paul II seront écoutés, je ne peux rien dire là contre, d'autant moins que je suis catholique moi-même. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je ne vois pas cette possibilité.
Ici de ma part. Dans votre première phrase, au début de votre conférence, vous avez attiré mon attention par la citation suivante qui vient de vous. « La société civile prend le dessus sur l'État qui est devenu un exécutant. »
Je ne comprends toujours pas.
Un peu plus fort, OK. Vous avez mentionné dans votre conférence tout à fait au début, « La société civile prend le dessus sur l'État qui est devenu un exécutant. » J'abonde dans votre sens, je suis d'accord avec ce que vous avez énoncé, mais je trouve que ça doit nous faire réfléchir à une telle déclaration de votre part, puisque ce problème-là, nous le vivons ici avec toute la coloration locale du Québec puis du Canada par extension. Ça m'apporte à vous poser la question suivante. Si c'est le cas que l'État est devenu un exécutant à cause que la société civile fonctionne et prend de plus en plus le dessus, est-ce que quand on va voter Est-ce qu'on va voter pour des démarcheurs ou des businessmen, ou on appelle ça des lobbyistes, ou si on vote vraiment pour un gouvernement? Moi, j'ai mon idée là-dessus, mais je pense que ça a de l'air, d'après ce que vous dites, c'est pas le gouvernement qui gouverne. Il n'est que l'exécutant, et c'est dommage pour nous, parce que les lobbyistes, les démarcheurs, c'est les grandes corporations, et si on vote pour les grandes corporations, c'est pas ça qu'on s'attend. On s'attend de voter pour un gouvernement.
Dites un peu de façon. Excusez-moi de cette interruption. Vous savez, cela n'est pas que la société civile soit voulue ou pas. La société civile disparaîtra un jour en tant que pouvoir hégémonique. Mais cela ne dépend pas de la société civile qui ne renoncera jamais à son pouvoir. Personne jamais ne renonce au pouvoir. Il faut le lui arracher. Donc, l'équilibre chrétien-occidental classique, les trois communautés, Église, État, société civile, reprendront une espèce d'équilibre. Peut-être jamais l'équilibre d'avant le 19e siècle, mais reprendront un certain équilibre. Nous sommes dans le provisoire. La société civile ne peut pas, n'a pas la compréhension politique et encore moins morale pour pouvoir gouverner une société. Donc ce sera l'équilibre rétabli. En attendant, il faut, selon ses convictions, parce que vous pouvez ne pas partager mes opinions et dire que c'est très bien la société civile, son hégémonie, mais il faut agir dans les moyens du possible pour rétablir, à mon avis, c'est la tâche d'un chrétien, de rétablir cet équilibre, parce que c'est un équilibre conforme à la nature humaine. C'est tout ce que je peux dire.
J'ai une deuxième très courte. Vous avez dit un peu plus tard dans votre conférence, la société civile d'aujourd'hui est le résultat du pacifisme basé sur l'économie et non sur la religion, l'État et les armes. Quelque chose comme ça. À ce moment-là, est-ce que nous ne serions pas dupes? On est dupes parce que finalement... C'est un pacifisme acheté par des dollars. C'est du mercantilisme qui fait fonctionner la société. Puis si on, à un moment donné, on a pour centre d'opération là où les sociétés civiles, qui est une notion non reconnue, qui est une notion nouvelle, qui n'est même pas une notion politique ici au Canada et aux États-Unis, alors est-ce qu'on n'est pas dupe? Et puis, est-ce qu'on va se réveiller un jour pour se rendre compte, un peu comme le monsieur a dit tout à fait à gauche ici, qu'à un moment donné, on prend des vessies pour des lanternes, on pense qu'un gouvernement fonctionne, qu'un gouvernement gouverne, mais ce sont d'autres qui font marcher le gouvernement, alors que nous, on devrait croire que le gouvernement gouverne.